RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Il est 3h à Jakarta, 20h en temps universel. Depuis Jakarta, RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec des programmes en français.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie, présente le journal, les informations actuelles et les divertissements de l'Indonésie.
Vous pouvez écouter nos émissions sur les ondes courtes de 9,5-200 kHz.
Vous pouvez également écouter nos émissions sur www.voinews.id/french.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.
Bonsoir, chères auditrices et chers auditeurs des quatre coins du monde. Voici l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Notre émission sera commencée par le journal, suivi les nouvelles dans l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui. Nous allons également présenter les magazines culturels, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Voilà le programme pour aujourd'hui. Écoutons maintenant le journal et les nouvelles de l'Indonésie.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Chers auditeurs de TIS, voici le bulletin d'information aujourd'hui. L'Association des étudiants indonésiens de la région Europe-Amérique a tenu un concours. L'ambassade d'Indonésie à Bratislava a organisé un séminaire de déradicalisation des terroristes en Indonésie. Voici le bulletin complet. L'Association des étudiants indonésiens de la région de l'Amérique et de l'Europe, en coopération avec le ministre indonésien du Tourisme et l'ambassade de la République d'Indonésie, a tenu simultanément des activités de la merveilleuse de l'Indonésie en 2018 dans 15 États d'Amérique et d'Europe. Heru Maulana, le coordinateur de la merveilleuse de l'Indonésie 2018, a expliqué que cette activité visait à faire écho et à élargir les promotions liées à l'Indonésie. La variété d'art et culture, les œuvres et le tourisme d'archipel sous la forme de musique, de danse traditionnelle, de nourriture spéciale et de beauté naturelle d'Indonésie ont présenté à la communauté mondiale, particulièrement dans le continent de l'Amérique et de l'Europe. Il a déclaré à la voix de l'Indonésie de RRI vendredi le 25 mai qu'en plus des performances artistiques et l'exposition des produits de spectacle, on a également tenu un concours numérique comme un effort pour promouvoir la culture et le tourisme par les technologies de l'information. Dans cette activité, nous, de l'Association des étudiants indonésiens, ou PPI, de la région d'Amérique et d'Europe, avons organisé un concours dans quatre domaines. Le premier, la vidéo à grave, la vidéo documentaire, le flop et le concours de photos. Le défi pour nous est de savoir comment promouvoir l'Indonésie basée sur le numérique. Parce que la nouvelle plateforme du ministère du Tourisme et la façon dont cette promotion numérique est promue. Selon Heru Maulana, la merveilleuse de l'Indonésie 2018 est organisée simultanément en Irlande, en Russie, en Turquie, en Allemagne, en Finlande, à Washington DC, au Royaume-Uni, en Suisse, au Portugal, en Suède, en Italie, au Danemark, en France, en Hongrie et en Serbie. Cette activité a lieu le 1er dimanche d'avril et le 4e semaine de juin 2018. Cet événement se tient simultanément afin que l'écho de la merveilleuse de l'Indonésie soit plus ressenti dans les deux continents. L'ambassade d'Indonésie à Bratislava, en collaboration avec l'Institut d'études asiatiques à Bratislava, a organisé un séminaire intitulé déradicalisation terroriste en Indonésie avec le conférencier. Le directeur de la coopération régionale et multilatérale de l'Agence nationale pour la lutte contre le terrorisme, Andika Krishna Yudanto. Le conseil des informations sociales et culturelles, l'ambassade d'Indonésie à Bratislava, Lely Melani, a dit à Antara Londres jeudi que le séminaire s'était tenu en mars de la délégation de l'Agence nationale de la lutte contre le terrorisme a suivi le forum sur la sécurité mondiale de Bratislava 2018. Andika Krishna Yudanto a confirmé qu'il n'y avait aucun pays dans son monde qui est à l'abri du problème du terrorisme, y compris l'Indonésie. À cette fin, l'Indonésie a tenté de prendre diverses mesures en vue de lutter contre le terrorisme, y compris la déradicalisation des terroristes emprisonnés, des individus ou des groupes liés à des terroristes. La famille des terroristes emprisonnés ou ceux qui ne sont plus des terroristes. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, a rencontré son homologue péruvien, Francisco Néstor Popolizio Bardales, pour discuter de la coopération bilatérale entre les deux pays. Les communiqués de presse du ministère des Affaires étrangères à Jakarta jeudi a déclaré que la visite de travail de la ministre Retno à Lima, au Pérou, était la première visite bilatérale depuis l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 1975. Lors d'une réunion bilatérale, le ministre Retno a affirmé que le Pérou était un marché important pour l'Indonésie et la coopération économique entre les deux pays ne reflètent pas encore le potentiel existant. Le Pérou est le quatrième partenaire commercial de l'Indonésie en Amérique du Sud. Pour renforcer la coopération commerciale, les deux ministres des Affaires étrangères ont convenu de l'importance des accords commerciaux entre les deux pays. En outre, le ministre Natal Gawa a transmis l'importance de travailler plus dur pour améliorer l'interaction entre les entrepreneurs et la diversification des produits dans le commerce entre les deux pays. L'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Joseph R. Donovan, a tenu un iftar avec les enfants marginaux et les enfants des rues de Jakarta, de la fondation Lentera Anak Pelangi et de la fondation Red Nose jeudi. L'ambassadeur des États-Unis en Indonésie, Joseph R. Donovan, a déclaré qu'en tant que troisième et quatrième plus grand pays en termes de population, l'Indonésie et les États-Unis avaient des similitudes. Ils ont les pays diversifiés, unis par des valeurs communes. Il a été par Joseph Donovan à Jakarta jeudi. Il y a beaucoup de facteurs dans lesquels les deux pays ont beaucoup de similitudes. Nous sommes également le troisième et quatrième plus grand pays avec la plus grande population. Les deux pays sont les pays diversifiés, étant unis par des valeurs communes. Nous sommes fiers d'être un exemple dans les gens avec différents types, avec des différentes capacités, de l'arrière-plan différent pour vivre côte à côte. Est aussi baptise ensemble une communauté forte. Selon Joseph Donovan, chaque année, il y a les échanges de visites entre la fondation de Red Nose à Jakarta et la communauté similaire à Chicago. Il espère qu'avec cette coopération, les relations entre l'Indonésie et l'Amérique s'améliorent. En outre, il a également exprimé son appréciation à l'Indonésie qui est devenue un partenaire, même un pays ami pour les États-Unis. Le dernier, le ministre indonésien des Affaires étrangères a appelé les citoyens indonésiens à ne pas entrer au Yémen à la suite de la situation politique et sécuritaire dans ce pays. Pour ceux qui sont déjà là, quittez immédiatement le Yémen. Cela a été dit par le directeur de la protection des citoyens indonésiens et l'entité juridique indonésienne du ministère des Affaires étrangères, Lalu Muhammad Iqbal, à Jakarta récemment. Le gouvernement du sultanat d'Oman a soumis une circulaire officielle à Simei concernant l'interdiction pour tous les étrangers de franchir la frontière entre le Yémen et l'Oman, en raison de la situation politique et sécuritaire au Yémen. D'après la surveillance du gouvernement d'Oman, on craint que la frontière entre le Yémen et l'Oman, d'une longueur de 288 km, puisse être utilisée comme une porte de trafic pour les personnes entrant au Yémen pour soutenir les groupes Houthis et Al-Qaïda dans la péninsule arabique. La frontière également craint comme lieu de trafic la contrebande d'armes actuellement à partir des deux frontières terrestres du Yémen avec les pays voisins, l'Arabie Saoudite et l'Oman. Seules les frontières avec l'Oman qui peuvent encore être franchies. Ces auditeurs du TIS, c'était notre journal aujourd'hui.
Les nouvelles de l'Indonésie. Les informations uniques et intéressantes de plusieurs régions d'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. Un programme qui présente divers infos intéressantes de divers coins de l'Indonésie dans une semaine. La première info vient de Padang, Sumatra-Ouest. Le gouvernement de la ville Padang, Sumatra-Ouest, prépare la zone touristique intégrée du mont Padang, région qui s'étend le long de la côte de la ville en tant que destination touristique de la vacance de l'Eid 1439 Hijr. Le directeur du Bureau du tourisme et de la culture de Padang, Mehdi Iswandi, a dit qu'avec une superficie totale de 550 hectares, le mont Padang, Muaro, plage Air Manis, la plage Chimpago et Muaro Lhasa sont prédits pour être le centre de la foule des touristes dans les vacances de l'Eid. Dans ces endroits, en plus de pouvoir profiter de la plage, les touristes peuvent également faire selfie autour de drapeaux des États participants d'IORA étant tenus en 2015 à Padang. De plus, autour de la côte, il y a des jeux tels que des scooters, des voitures pour les enfants, ainsi que des spécialités culinaires de la plage Padang. Outre la plage Chimpago, la plage Muaro Lhasa est prédit être le centre de la foule devant le monument de Pigeon de paix. L'année dernière, dans les deux régions, plus de 10 000 touristes se rendent chaque jour pendant les vacances de l'Eid. Afin de soutenir l'augmentation des touristes, certaines infrastructures ont été renforcées, y compris l'ajout d'un piéton qui relie la plage Chimpago à Muaro Lhasa. La deuxième info vient de Lamongan, Javaès. Le festival Sego Boranan, l'alimentaire typique de Lamongan, Javaès, a eu lieu le samedi en préparant 15 000 portions au carré au centre-ville Lamongan. Le régent de Lamongan, Fadli, a dit que le festival a été tenu dans le 449e anniversaire de Lamongan. Il y a 150 commerçants de Sego Boranan avec chaque marchand prépare 100 pinchuk ou enveloppes de plats, donc il y aura 15 000 plats Sego Boranan qui peut être apprécié pour rupture le jeûne. Fadli a déclaré que le festival Sego Boranan a été tenu pour la première fois. Sego Boranan est une spécialité culinaire qui n'existe qu'à Lamongan, nommé Sego Boranan parce que le riz est placé dans un récipient en bambou appelé boran et souvent servi dans pinchuk ou enveloppé dans des feuilles de bananier avec une variété d'options de plats cotés, le poisson chat, le chano, le poulet et le plus typique poisson, sili fumé. Du riz et les plats de côté dans le menu Sego Boranan sont barbouillés de sauce épicée boran accompagnée de légumes kerabu, empok et rempeyek. La dernière info vient de Garut, Java West. Le parc animalier Cikembulan en région Garut est fermé au public parce qu'il y a la fixation des installations et des infrastructures pendant le Ramadan pour fournir un service optimal pour les touristes pendant la saison des vacances de l'été. Le directeur du parc animalier Cikembulan, Rudy Arifin, a déclaré pendant le Ramadan, le parc animalier Cikembulan dans le district Kanungora n'est pas ouvert au public. C'est aussi l'occasion pour les animaux de profiter d'une atmosphère calme et de ne pas interagir avec les visiteurs. Il a transmis des soins optimaux à différents types d'animaux qui devraient être faits pour que les animaux restent en bonne santé, particulièrement en entrant dans les saisons. Les animaux ont besoin d'une manipulation spéciale afin de ne pas tomber malade. Il est prévu qu'il y aura une augmentation du nombre de visiteurs pendant la saison des vacances de l'été parce que Cikembulan est largement connu au public. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie.
Les fêtes historiques que nous présentons à travers aujourd'hui dans l'histoire.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 26 mai. Le 26 mai 1966, la Guyane a acquis son indépendance. La Guyane, qui est située au nord de l'Amérique latine, s'est libérée. La Guyane a été découverte par des marins espagnols il y a environ 5 siècles. C'est ce pays qui devient plus tard l'envahisseur de la Guyane. Au début du XVIIIe siècle, il y eut une grande guerre entre les pays européens dans les régions du Guyane, du Suriname, du Venezuela et dans certaines régions du Brésil. En 1815, on a signé l'accord de Vienne par les pays impliqués dans la guerre. Dans l'accord, il a été déterminé que les limites de la zone contestée devaient être subdivisées entre les pays colonisateurs. Dans cette division, la Guyane est devenue la zone de la colonie britannique jusqu'à son indépendance définitive. Ensuite, le 26 mai 1972, les États-Unis et l'Union soviétique ont signé le traité des missiles antibalistiques. Le traité des missiles antibalistiques est un traité entre les États-Unis et l'Union soviétique concernant la restriction du système des missiles antibalistiques utilisés pour défendre le territoire contre les armes nucléaires portées par des missiles. Le 26 mai 1972, le président américain Richard Nixon et le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Leonid Brezhnev, ont signé le traité des missiles antibalistiques. Ce traité est valable pour 30 années, de 1972 à 2002. Le 26 mai 2005, Radius Braviero est décédé. Radius Braviero est un économiste et homme politique indonésien. Radius est l'une des initiateurs de la base de l'économie indonésienne dans l'ère du Nouvel Ordre. Radius Braviero a porté diverses positions importantes dans le domaine de l'économie financière. Il a servi en tant que haut fonctionnaire de la Cour des comptes suprêmes, le ministre des Finances, le gouverneur de la Banque centrale de l'Indonésie, le représentant important des institutions internationales et des institutions financières. Pendant la guerre d'indépendance, Radius Praviro a également participé aux champs de bataille, comme l'officier du quartier général de l'autoroute du peuple indonésien à Yogyakarta de 1947 à 1948. Radius Praviro est mort d'une maladie cardiaque à Munich, en Allemagne. Chers amis, c'était l'histoire d'aujourd'hui.
Indonesiaku, mon Indonésie présente l'Indonésie dans les domaines de l'économie, de la politique étrangère, le Pancasila, des sports et de l'environnement.
Chers amis, nous continuons notre émission avec mon Indonésie et en titre Soutenir la Palestine, l'Indonésie libère des droits d'importation de dattes et d'olives. L'Indonésie supprime les droits de douane à l'importation de certains produits palestiniens. Pour la phase initiale, l'Indonésie éliminera les tarifs douaniers de l'huile de palme et d'huile de palme originaire de Palestine. C'est une forme de soutien indonésien à la lutte palestinienne dans le secteur économique. C'est ce qu'a déclaré le ministre du Commerce de la République d'Indonésie, Enggar Tias Tolukita, lors de sa rencontre avec l'ambassadeur palestinien Zuhair Al-Shun, mardi 22 mai à Jakarta. Le ministre Enggar Tias Tolukita a déclaré que l'avenir d'autres produits seront choisis et acceptés par les deux parties. Le ministre du Commerce a dit que cette réunion est la suite de la signature d'un mémorandum d'accord concernant la préférence pour l'élimination du droit de douane à l'importation de 0% pour certains produits en provenance de Palestine. La signature du protocole d'accord a eu lieu lors d'une réunion bilatérale entre les deux pays en marge de la 11e conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce le 12 décembre 2017. Selon le ministre Enggar Tias Tolukita, la réunion à mardi était la première réunion avec l'ambassadeur palestinien après son placement en Indonésie depuis novembre 2017. Les ratifications au titre du protocole d'accord ont été complétées avec la publication du règlement présidentiel numéro 34 de 2018 sur la ratification du mémorandum d'accord palestinien. Toutefois, le présent protocole d'entente n'a pas été mis en œuvre parce que les directives techniques de l'arrangement de mise en œuvre n'ont pas été signées par les deux parties. Les chances du projet d'arrangement de l'implémentation a été mis en œuvre à plusieurs reprises et l'Indonésie a présenté son dernier projet le 26 janvier 2018. Si l'accord de mise en œuvre a été signé par les deux parties, l'Indonésie publiera bientôt un règlement du ministre des Finances en tant que règle d'application de l'élimination des tarifs des dattes et de l'huile d'olive. Le commerce total entre l'Indonésie et la Palestine en 2017 a été enregistré à 2,39 millions de dollars américains. Ce chiffre a diminué 4,91% par rapport à l'an 2016. Tandis que la balance commerciale en 2017, l'Indonésie a connu un excédent de 1,7 millions de dollars américains. En 2017, les exportations indonésiennes vers la Palestine se sont élevées à 2,05 millions de dollars américains, en baisse de 8,09% par rapport à l'an 2016. Les exportations vers la Palestine comprennent des extraits,
concentré et essence de café et du thé, les pâtes, parfum, pain et du savon. Cependant, la valeur des importations indonésiennes en provenance de Palestine s'élevait à 341 000 dollars américains. Cette valeur a augmenté 20,09% par rapport à l'année 2016, d'un montant de 284 000 dollars américains. Les produits importés de l'Indonésie en provenance de Palestine sont des dattes, soit séchées et humides. Chers amis, c'était mon Indonésie.
Shine.
Les émissions de La Voix de l'Indonésie peuvent également être écoutées via le streaming audio sur le site www.voinews.id/french.
Connaître la richesse de l'art, de la culture et du tourisme indonésien dans le programme Le Magazine Culturel, Pesona Indonesia.
Bonsoir à tous, nous continuons notre émission avec le Magazine Culturel, introduisant la source d'eau chaude Tuti Adagai, l'une des destinations touristiques à alors Nusa Tenggara Est. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, La Voix de l'Indonésie. La Régence Alor, qui est située à Nusa Tenggara Est, a des ressources naturelles abondantes, ce qui est capable de fournir un paysage intéressant pour les visiteurs. L'un d'entre eux est la beauté de la source d'eau chaude Tuti Adagai, située à l'est de l'île Alor, qui vaut vraiment la peine d'être une destination touristique. L'emplacement de cette source thermale est à environ 50 km de la ville Kalabahi, la capitale de la Régence Alor, district Alor Nord-Est, en province Nusa Tenggara Est. L'emplacement de cette source d'eau chaude est très facile à atteindre en raison des excellentes conditions routières. Le voyage de la ville Kalabahi à cette source d'eau chaude prend environ une heure. Avant d'entrer dans l'emplacement, les visiteurs peuvent profiter de la vue sur la forêt de noix et les arbres ombragés, ce qui est approprié pour un lieu de détente avec la famille. Différent de la source d'eau chaude en général, ici il y a deux sources d'eau chaude qui ne sont pas éloignées et au milieu de l'écoulement de la rivière. La première source d'eau chaude est sous forme d'eau sortant du fond de la terre avec un son distinctif comme le son d'un gros moteur qui semble accueillir les visiteurs et prête à vous accompagner. Mais n'essayez pas de le toucher, encore moins de vous baigner ici, car l'eau est très chaude. La deuxième source d'eau chaude se trouve à environ 50 mètres du premier point de source d'eau chaude. Ici, l'eau chaude a jailli de la pile de minuscules dépôts rocheux durcis à plus d'un mètre autour du trou, d'une très belle couleur orange. À cette deuxième source d'eau chaude, l'eau peut être utilisée par les visiteurs pour se baigner et éliminer la fatigue après un voyage. En outre, les visiteurs peuvent également profiter de la belle circulation d'eau chaude de la rivière Tuti Adagai qui coule lentement vers l'estuaire avec des boues toujours émises et la chaleur de la mousse et de la vapeur. La chaleur sera plus prononcée lorsque nous serons au bord de la rivière parce que cette source d'eau chaude contient du soufre. Les gens croient que la baignade dans cette rivière peut guérir les maladies de la peau. En plus du point d'éclatement, il y a aussi des points d'aspersion du fond de l'eau comme une petite source d'eau qui émet toujours de l'eau chaude. Les petits animaux ne peuvent pas survivre lorsqu'ils approchent du débit d'eau. La source d'eau chaude Tuti Adagai a un phénomène unique sous la forme d'éclats d'eau chaude et de pierres de cristal, ce qui en fait une attraction particulière pour ceux qui s'ennuient dans l'atmosphère urbaine. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Warna-warni, l'Indonésie en couleur, présente les informations sur les femmes, les jeunes et les réussites de l'Indonésie.
Chers amis, nous continuons notre émission avec l'Indonésie en couleur, informant sur le cumin noir pour le médicament du cancer oral. Donc, restez toujours avec nous, le service mondial de Radio République Indonésie, la voix de l'Indonésie. On croit que le cumin noir ou la graine noire est un remède pour diverses maladies, particulièrement pour les musulmans. L'avantage de la graine noire est même directement affirmé par le prophète Mohammed dans son hadith. Relié avec l'efficacité du cumin noir, trois étudiants de la faculté de médecine dentaire de l'université Jember, Rizky Putri Akma Wijayanti, Ari Intan Prayitno et Haifa Azuhra Dinanta, examinent l'efficacité potentiel du cumin noir comme médicament du cancer de la bouche. Grâce à leur travail acharné, le résultat de recherche de ces étudiants intitulé « Le potentiel de mesoprous silica nanoparticules à base de thymoquinone graine de cumin noir en tant qu'inducteur de carcinome épidermoïde oral de l'apoptose UMSCC14C a remporté avec succès la première catégorie de littérature dans Mustopo Dentistry Scientific Competition Project 2018 organisé par la Faculté de médecine dentaire de l'Université Professeur Dr Mustopo les 22 et 23 mars 2018 à Jakarta. Le potentiel du cumin noir en tant que médicament est déjà prouvé et largement étudié, par exemple comme un remède contre le cancer du côlon, le cancer du sein et d'autres maladies. Les trois étudiants ont finalement pensé à faire du cumin noir comme médicament contre le cancer de la bouche. Selon Rizky, près de 76% des patients du cancer de la bouche se vérifiaient eux-mêmes dans des conditions aiguës ou sévères. Cela peut arriver parce que beaucoup ne réalisent pas déjà avoir un cancer de la bouche. La maladie peut survenir à cause, entre autres, de fumer et de boire de l'alcool. Les symptômes du cancer de la bouche ressemblent initialement à des aphtes, sous la forme de plaies dans la cavité buccale, rougeâtre, accompagnées d'une plaie légèrement surélevée. Mais le problème est si le cumin noir sous forme de capsule juste ivre, alors l'efficacité est faible, car la teneur en cumin noir ne peut pas aller directement au centre de cancer de la bouche. Dans l'article scientifique, le cumin noir est extrait dans l'huile ou la thymoquinone. Cette huile extraite est ensuite introduite dans un très petit mélange de silice ou de nanoparticules. De cette façon, il est prévu que le cumin noir contenant des anti-inflammatoires, antibactériens, anti-cancers et aide le système immunitaire pour surmonter le cancer de la bouche. L'innovation des trois étudiants de la faculté de médecine dentaire de l'université Jember a été appréciée par les juges qui ont ensuite décidé que leur article scientifique était le premier gagnant. Ils ont réservé 9 autres équipes de la faculté de médecine dentaire de l'université d'Indonésie, de l'université Erlangen, celle de l'université Hasanuddin et d'autres équipes. Ces trois étudiants ont souvent obtenu des résultats dans divers concours d'écriture scientifique en Indonésie. Haifa a remporté le premier prix dans le cadre du concours d'écriture scientifique organisé par la faculté de médecine de l'université Brawijaya à Malang en 2016. Cependant, Rizky et Ari sont devenus le deuxième lauréat d'un événement similaire à la faculté de médecine de l'université Halu Oleo l'année dernière. Cher ami, c'était l'Indonésie en couleur.
Pelangi Nada, le magazine musical, vous présente les musiques et les chansons indonésiennes.
Bonsoir à tous les auditeurs de RRI du Service mondial de la Voix de l'Indonésie. On se retrouve dans le magazine musical, un programme qui vous introduit des chansons indonésiennes. L'édition d'aujourd'hui va vous présenter des chansons indonésiennes nuancées Ramadan. C'est solitaire, pour commencer de notre rencontre, je vais vous donner la chanson intitulée « Padamu ku bersujud » ou « Devant toi, je me prosterne » par Afghan. Bonne écoute et restez avec nous à www.voynews.id. Thank you.
minta kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwaan. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanku saat kau limpahkan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud, kau tempatku meminta, kau beriku bahagia, jadikan aku selamanya hambamu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah yang sering melupakanmu saat kau lupakan karuniamu. Dalam sunyi aku bersujud padamu.
Voilà, la chanson s'intitule « Padamouk Bersujud » ou « Devant toi, je me prosterne » chantée par Afghan. Cette chanson a été lancée par Afghan pour accueillir l'arrivée de Ramadan en 2008. C'est la première chanson religieuse d'Afghan qui raconte que chaque être humain n'est pas échappé du péché. Si ce n'était la chanson de Ramadan suivante est « Swasana di Kota Santri » ou « L'atmosphère, la ville de Santri ». Bonne écoute.
Suasana di kota santri, asik senangkan hati. Suasana di kota santri, asik senangkan hati.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson intitulée Suasana di Kota Santri, l'atmosphère de la ville de Santri, chantée par Anang et Shahrini. La chanson publiée en 2010 est une chanson de recyclage. Elle a été popularisée par le groupe Kasida, s'appelle Nasidaria. Cette chanson décrit l'atmosphère dans une ville de Santri, des villes où il y a beaucoup de pensionnats islamiques. Ces auditeurs suivent la chanson nuancée de Ramadan que je vais donner et intitulée Semua karena Allah ou Tout est grâce à Allah. Bonne écoute.
Apa gunanya mata? Apa guna telinga? Jika yang kau lihat, jika yang kau dengar membuat murka Allah.
Voilà, la chanson s'intitule « Semua karena Allah » ou « Tout est grâce à Allah », une chanson de collaboration entre Astrid et Didé, les personnels de la bande Hijau Daun. Cette chanson a été créée pour accueillir le Ramadan en 2011. Cette chanson rappelle aux gens d'être toujours reconnaissants et d'adorer toujours Dieu. Chers auditeurs, pour terminer l'édition du magazine musical d'aujourd'hui, je vous donne d'autres chansons religieuses s'intitule Hingga saatnya akan tiba ou Jusqu'à ce que le temps vienne par Alexa. Bonne écoute et au revoir.
Merci d'avoir écouté les programmes en français de RRI World Service, la voix de l'Indonésie.
Suivez nos émissions tous les jours sur les ondes courtes de 9525 kHz. Envoyez-nous vos critiques et suggestions à RRI World Service, la voix de l'Indonésie, RRI, au 4e étage, Jalan Medan Merdeka Barat, numéro 4-5, Jakarta 10110 ou PO Box 1157, Jakarta. Vous pouvez également rejoindre sur Facebook The Voice of Indonesia et Twitter @voiindonesia ou bien Instagram voice-of-indonesia.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie. Informing, connecting, dignifying.